En cette période de fin d'année, de Noël, on entend beaucoup parler de Jésus. Beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui, une fois par an, aiment entendre l'histoire de cet enfant né dans une crèche à Bethléem, à qui les mages sont venus rendre visite pour porter des présents après avoir suivi une étoile. Ils aiment cette histoire, ils l'aiment beaucoup. Tous les ans, à la même époque, ils se la racontent. Ils font même une petite décoration chez eux avec des personnages pour illustrer tout ça. Mais ils n'en croient pas un mot, pas un seul mot. Il y a d'autres personnes qui aiment aussi cette histoire, qui y croient. Elles croient que cette histoire est vraie, mais ça s'arrête là. Ils croient que Jésus est né, croient que Jésus est venu, que Jésus est mort sur une croix, mais ça s'arrête là. Jésus ne fait pas partie de leur vie. Et puis il y a d'autres personnes, comme nous tous, j'espère, pour qui Noël, c'est un bon moment, c'est un jour important, parce que c'est la naissance de Jésus. On aime s'en souvenir, on aime se le rappeler. C'est des bons moments en famille aussi, des moments bénis, parce qu'on croit que le Seigneur est aussi parmi nous dans ces moments. Mais c'est un jour de plus dans l'année, parce que Jésus est avec nous tous les jours de l'année. Pas seulement le jour de Noël, il est là tous les jours. Amen. Et si nous fonctionnons comme ça, c'est parce que nous avons compris que Jésus, c'est bien plus que la crèche, c'est bien plus que les tables, c'est bien plus que Noël. Et nous avons compris que aimer Jésus, c'est bien plus que tout cela. Aimer Jésus représente beaucoup plus que l'histoire de la crèche. Ça ne suffit pas de croire que Jésus est né, que Jésus a vécu et qu'il est mort un jour sur une croix. Ça ne suffit pas. Il y a beaucoup plus. Jésus a prévu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour nous. Et ce matin, je voudrais qu'on partage ensemble cette espérance que la parole de Dieu met dans nos cœurs, que Jésus est venu, c'est vrai, qu'il a vécu sur cette terre, mais qu'il va revenir. Il revient bientôt. Il revient nous chercher. Il est venu comme un agneau, mort sur la croix. Il reviendra comme un époux pour enlever son église. Et puis ensuite, il reviendra comme un roi pour régner sur cette terre. Avant de parler de ces trois venues de Jésus, je voudrais dire quelque chose qui est important, je crois. C'est que, au-delà des venues de Jésus, il faut comprendre que Jésus a toujours été là. Jésus n'a pas existé à partir du moment où il est né. Jésus a toujours été là. Il le dit lui-même, « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Nous, parfois, nous allons dans des endroits où nous n'étions jamais allés. Donc, quand on arrive dans ces endroits, on ne connaît personne et les gens ne nous connaissent pas. Mais Jésus, lui, c'est différent. Il est venu alors qu'il était déjà là. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais Jésus est venu. Mais quand il est venu, il était déjà là. Il était là depuis le commencement. Et c'est l'erreur que font certains, pensant qu'à Noël, on célèbre la naissance de Jésus. Quelque part, oui, c'est le jour où Dieu s'est incarné. Dieu s'est fait chair. Mais Dieu n'a pas commencé à exister le jour où Jésus est né. Dieu a toujours existé. Il était dans ce monde avant de naître. Sa naissance, c'est juste une manifestation charnelle de Dieu. C'est ça la naissance de Jésus. C'est Dieu qui s'est fait homme, c'est sa manifestation charnelle. Et c'est important de comprendre ça, parce que comprendre ça, c'est comprendre aussi que quand nous prions Jésus, nous ne prions pas un homme, nous ne prions pas un ange, mais nous prions Dieu lui-même. Prier Jésus, c'est prier Dieu lui-même. Et ça, ce n'est pas une conviction, pas quelque chose que j'ai déduit moi-même, c'est une preuve qui est donnée par la parole de Dieu. Et je vais partager avec vous deux versets, deux passages qui prouve ce que je viens de dire. Tout d'abord, l'évangile de Jean au chapitre 1, versets 1 à 4. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 1, un peu plus loin, au verset 14, Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. » il a toujours été là. Il s'est fait chair. Un jour, il s'est fait chair pour nous, mais il a toujours été là, depuis le début. Et une autre chose que je voudrais ajouter à propos de la présence de Jésus avant sa naissance, ça concerne l'ange de l'Éternel. C'est une expression que vous avez déjà dû entendre, l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, on nous parle à certains moments des anges. Il y a des anges qui viennent. Parfois, la Bible nous parle d'un ange qui vient. Mais dans l'Ancien Testament, on entend beaucoup parler de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est un ange particulier. C'est un ange qui est différent des autres. C'est un ange qui s'apparente à Dieu. C'est un ange qui parle comme Dieu. Et les apparitions de l'ange de l'Éternel s'arrêtent à partir du moment où Jésus va naître. On entend parler de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, mais à partir du moment où Jésus naît, on n'entend plus parler de l'ange de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle une christophanie. C'est une apparition de Jésus. On le retrouve plein de fois dans l'Ancien Testament. Je ne les ai pas comptés, mais beaucoup, beaucoup de fois. On le retrouve dans le livre de la Genèse, quand il vient sauver Agar dans le désert, un peu plus tard. C'est lui qui va arrêter, Jacob, au moment où il va tuer Isaac. C'est lui qui l'arrête. On va le retrouver un peu plus tard, quand il est dans le buisson ardent et il parle à Moïse. C'est lui qui envoie Moïse vers Pharaon. On le retrouve aussi dans le livre des Juges. C'est lui qui appelle Gédéon. On le retrouve plus tard aussi. Il parle au prophète Zacharie. Il annonce sa parole au prophète Zacharie. À maintes reprises dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est là. Et l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de la présence de Jésus avant sa naissance, avant son incarnation. Et ceci est très important. C'est très important de comprendre que Jésus s'est manifesté sur la terre avant sa naissance. Parce que si Jésus avait commencé à exister au jour de sa naissance, il ne serait pas Dieu. Car Dieu a toujours été. Et Jésus est là depuis le commencement. Celui qui croit que Jésus a commencé à vivre à partir du jour où il est né, il est dans l'erreur. Il vit dans l'erreur. Dieu n'a pas de commencement. Jésus n'a pas de commencement. Toute la parole nous le dit. Toute la parole nous le prouve. Moi, le jour où j'ai compris ça, parce qu'il y a quelque chose à comprendre là, mais le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que je suivrai Jésus toute ma vie. Et ce matin, nous allons parler donc de la venue de Jésus en tant qu'agneau. Il est venu en tant qu'agneau pour être sacrifié pour nous. Il va revenir en tant qu'époux pour enlever son église. Il reviendra encore en tant que roi pour régner. Et notre espérance, ce n'est pas seulement qu'il s'est fait homme. C'est vrai qu'on aime se le rappeler en ces temps de Noël. Mais notre espérance, elle n'est pas seulement là. Notre espérance, c'est dans le fait qu'il va revenir nous chercher. Amen. L'époux va revenir. Il va revenir comme un voleur. Il va revenir enlever son église. Mais il reviendra aussi plus tard en tant que roi. Et à ce moment-là, on reviendra avec lui pour régner sur cette terre. La première venue de Jésus, donc, en tant qu'agneau, il est venu pour mourir. C'est la seule venue de Jésus que nous ayons connue jusqu'ici. Les deux autres sont à venir. Mais la venue de l'agneau, c'est la seule que nous ayons connue. C'est une incarnation. Jésus s'est fait chair. On l'a lu tout à l'heure. Et la parole a été faite chair. Je partage avec vous deux autres passages qui parlent de cela. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà l'agneau de Dieu, Jésus, l'agneau de Dieu. Et puis dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 6 et 7. Luc 2, 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Pourquoi cette naissance de Jésus a-t-elle eu lieu? Dieu pouvait rester dans le ciel. Il est suffisamment puissant. Il aurait pu faire de grandes choses sans se faire homme, mais il a décidé de se faire homme. Pourquoi donc Jésus est né? Pourquoi cette naissance a-t-elle eu lieu? Ça a été révélé, on l'a lu tout à l'heure, il fallait que la parole soit chair. La parole a été faite chair. Jésus est né afin de devenir chair, pour que la parole soit chair, pour que l'agneau de Dieu soit chair. Et il l'a fait pourquoi? Pour mourir. C'était le but, de mourir sur cette croix. Pourquoi? Pour nous sauver. C'est la seule raison pour laquelle l'agneau est venu. Parce que s'il n'était pas venu en tant qu'agneau, s'il n'était pas venu en tant qu'homme, aurait-il pu être sacrifié sur une croix? S'il n'avait pas été cher, s'il ne s'était pas laissé attraper, saisir, humilier, torturer, clouer, est-ce qu'il aurait pu mourir? Donc c'était la stratégie de Dieu, c'était le plan de Dieu, que Jésus vienne, qu'il soit cher, qu'il soit attrapé, qu'il soit crucifié. C'est et c'est toujours le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il a enduré tout cela pour nous sauver. C'était le but. C'était le but. Et à la croix, il est mort pour nous. Mais à la croix, il a également vaincu le diable. Amen. Est-ce que vous croyez qu'à la croix, il a vaincu le diable pour lui? Non. Non, il n'a pas vaincu le diable pour lui. Lui, il avait déjà vaincu le diable dans le ciel et il l'avait précipité sur la terre. Jésus n'avait pas besoin de venir sur terre pour vaincre le diable. Il l'avait déjà fait. La croix, c'est pour nous. La croix, c'est pour toi. La croix, c'est pour moi. La croix, c'est pour nous tous ici. Jésus est mort à la croix pour nous. Il n'est pas mort à la croix pour lui. Il avait déjà vaincu le diable. Il est venu le faire pour nous seuls. Pour que nous aussi, nous ayons une victoire sur Satan. Sans cela, s'il ne s'était pas fait cher, nous n'aurions jamais pu prendre une victoire sur l'ennemi. Voilà pourquoi la croix, c'est pour toi, c'est pour moi. Voilà pourquoi la croix, c'est le symbole du salut. Parce que Jésus a accepté de venir, de mourir. Et il l'a fait pour nous. Amen. Il y a une autre raison, je crois, pour laquelle Jésus est venu en tant que chair. C'est qu'il nous fallait un modèle. Il nous fallait un exemple. Est-ce que dans l'Ancien Testament, Dieu est un exemple, comme Jésus est un exemple pour les hommes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et jusqu'encore aujourd'hui? Est-ce que dans l'Ancien Testament, les hommes regardaient Dieu comme un exemple, comme un modèle? Est-ce que les hommes cherchaient à imiter Dieu dans l'Ancien Testament, comme les hommes ont cherché à imiter Dieu et aujourd'hui encore veulent imiter Jésus? Nous avions besoin de cet exemple. Viens et vois. Viens et crois. Regarde Jésus. Moi, je crois parce que je vois Jésus. Si je ne l'avais pas vu, est-ce que je croirais? Jésus est un modèle pour nous tous. Jésus, c'est le modèle d'un homme qui a été capable de vivre selon Dieu. Jésus, c'est l'exemple que l'on peut vivre pour Dieu et comme Dieu. C'est l'exemple fait chair, que c'est possible. Jésus a dit, vous ferez des grandes choses comme moi, et même vous en ferez de plus grandes. C'est possible. Par la foi, c'est possible. Nous avions besoin de cet exemple. Si nous n'avions pas eu ce modèle, où serions-nous aujourd'hui? Il l'a fait pour nous. Dieu s'est abaissé jusqu'à notre niveau, notre petit niveau. C'est ça la venue de Jésus. C'est Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, pour que nous soyons élevés jusqu'à lui, que nous puissions être élevés jusqu'à Dieu. Il est venu comme un agneau pour que nous puissions être sauvés. Il est venu comme un agneau pour mourir, pour être sacrifié. Sachons apprécier ce sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en aura qu'un. Il n'y aura qu'un sacrifice. Il n'y aura pas deux sacrifices. Il n'y aura qu'un sacrifice. Jésus ne mourra qu'une seule fois à la croix. Il est déjà mort à la croix. Il ne mourra pas deux fois. Parce que quand il viendra nous chercher, quand l'époux viendra nous chercher, personne ne pourra l'attraper. C'est fini. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, mais c'est fini. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus va revenir chercher son église. Et quand Jésus viendra rechercher son église, personne ne le touchera. Personne. Personne ne pourra l'attraper. Il est venu comme un agneau pour nous sauver, par amour. Et il l'a fait pour nous accorder son salut parfait. Le salut de Jésus est parfait. Pourquoi le salut est parfait? Parce que Jésus est parfait. Parce que le sang de celui qui est mort à la croix est parfait. Parce que la vie de celui qui est mort à la croix est parfaite. Tout est parfait en Jésus. Tout est parfait en Jésus. C'est pourquoi, si tu as péché avant ta conversion et qu'aujourd'hui encore tu demandes pardon à Dieu pour des choses qu'il t'a déjà pardonnées, arrête. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Une fois que tu lui as demandé pardon, c'est fini. Tu n'as plus à demander pardon. C'est une fois. Si tu crois qu'il est mort à la croix, si tu lui as demandé pardon pour tes péchés, et si ce n'est pas fait, tu peux le faire ce matin. C'est une fois, pas deux fois. Si tu pries encore tous les jours pour demander pardon, arrête. Si tu jeûnes pour demander pardon pour tes péchés, arrête. Dieu ne pardonne pas à cause des jeûnes. Dieu ne pardonne pas à cause des estomacs vides. Dieu pardonne parce que tu crois au sang qui a coulé à Golgotha. Amen. Si tu crois en Jésus, tu es parfaitement sauvé. Parmi les disciples, Matthieu a été converti, il a été sauvé. Paul s'est converti, il a été sauvé. Matthieu n'avait tué personne, sauvé. Paul avait tué quelqu'un, sauvé aussi. Et Paul même a eu des révélations que Matthieu n'avait pas eues. Vous voyez ? Deux personnes complètement différentes, deux parcours complètement différents, mais deux personnes parfaitement sauvées. Amen. Et Paul a annoncé des choses que Matthieu n'a jamais annoncées, alors qu'il avait eu un passé de meurtrier contre l'Église. Amen. C'est quoi ça ? C'est la grâce. C'est la grâce, c'est tout simplement la grâce. L'agneau, c'est la manifestation de la grâce. L'agneau, c'est la manifestation de la grâce de Dieu pour nous. Personne n'aurait pu être sauvé. Aucun d'entre nous n'aurait pu être sauvé. Vous savez pourquoi ? Ça coûtait trop cher. Aucun de nous n'avait les moyens de payer le prix pour être sauvé. Aucun de nous, personne ici, et personne sur cette terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Parce que c'était trop cher, il a fait en sorte que ça soit gratuit. C'est gratuit. Le salut est gratuit. La grâce est gratuite. Tout cela a été fait par amour, gratuitement, pour chacun de nous. Voilà où est le véritable cadeau de Noël. Je vous le dis, c'est votre cadeau. Recevez la grâce. Recevez le cadeau de Dieu. Recevez le don gratuit de Dieu pour l'humanité. Et donc, si tu crois en Jésus ce matin, tu es parfaitement sauvé. Qui croit en Jésus ce matin ? Je ne peux pas voir si toutes les mains se lèvent, j'espère. Mais si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Qui croit qu'il est mort à la croix pour ses péchés ? Tu es sauvé. Qui croit que le sang a coulé à Golgotha ? Tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Vous êtes tous, toutes et tous, vous êtes sauvés. Amen. Il est venu comme un agneau. Il est venu comme un agneau pour être donné en sacrifice, pour mourir à la croix. Il l'a fait pour cela. Et bientôt, il va venir nous enlever. C'est la deuxième venue de Jésus. L'époux qui vient enlever son église. Il va venir enlever son église. On dit bientôt, mais quand ? On ne sait pas. Personne ne sait. Il viendra comme un voleur. J'ai vu mon frère qui le disait. Il va venir comme un voleur. L'enlèvement de l'église, c'est une grâce. Parce que Jésus va venir enlever son église avant la tribulation. Jésus ne permettra pas que l'église connaisse la tribulation. L'église verra les préparatifs de la tribulation, verra tout ce qui va conduire à la tribulation. Mais l'église ne connaîtra pas la tribulation. L'église ne connaîtra pas ce que l'Apocalypse appelle la colère de l'agneau. Vous savez que l'Apocalypse appelle la tribulation la colère de l'agneau. L'église n'est pas née pour connaître la colère de l'agneau. L'église, elle est née pour connaître la joie de l'agneau et connaître les noces de l'agneau. Voilà ce qui est promis à l'église. La joie et les noces. Donc Jésus viendra nous chercher. Et quand il viendra nous chercher, certains hommes ne mourront pas. Il y a des hommes qui seront vivants au retour de Jésus. Et ces hommes-là ne mourront pas. Ils ne mourront jamais. Vous savez ça ? Il viendra nous chercher. Si nous sommes vivants, nous serons enlevés avec lui. Et puis les morts en Christ seront ressuscités. Amen. Et tous ensemble, nous partirons avec lui dans le ciel. La Bible nous donne une image de cette résurrection, de cet enlèvement. C'est lorsque Jésus est sur la montagne de la Transfiguration. Il est avec Élie et il est avec Moïse. Il est avec un homme qui n'est jamais mort et avec un homme qui est mort. Et il est là avec tous les deux. Voilà une image de ce qui va se passer. Voilà une image de l'enlèvement. Jésus va venir nous chercher. Ceux qui seront vivants seront enlevés dans un corps glorieux. Et ceux qui seront morts seront ressuscités. Il y aura le groupe d'Élie et le groupe de Moïse. Moi, j'aimerais être dans le groupe d'Élie. Vous imaginez, dans un corps glorieux, voir Jésus venir et vous partez avec lui. Mais si je ne suis pas dans le groupe d'Élie, je prie pour être dans le groupe de Moïse. Amen. J'espère être dans le groupe de Moïse. L'enlèvement, c'est le moyen par lequel Jésus va nous donner quoi ? La victoire sur la mort. Parce que parfois on dit j'ai vaincu la mort. Non. Personne ici n'a vaincu la mort. Il n'y en a qu'un qui a vaincu la mort. C'est Jésus. Amen. Il est ressuscité. Est-ce que nous sommes ressuscités ? Non. Est-ce que nous avons vaincu la mort ? Non. Nous n'avons pas vaincu la mort. Si je monte d'un immeuble de 20 étages et je saute, je vais mourir. Même si j'ai le Saint-Esprit en moi, je vais mourir. Je n'ai pas vaincu la mort. Et je vous déconseille de le faire. Vous non plus, vous n'avez pas vaincu la mort. Nous vaincrons la mort le jour de l'enlèvement. Nous vaincrons la mort le jour où Jésus va revenir. Pourquoi ? Parce que nos corps mortels seront revêtus d'immortalité. Nos corps corruptibles seront revêtus d'incorruptibilité. Ceux qui sont vivants seront enlevés. Ceux qui sont morts seront ressuscités. Mais seulement à ce moment-là. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas vaincu la mort. On le sait très bien. C'est pourquoi, à partir de l'âge de 25 ans environ, je dis ça pour les plus jeunes, attendez-vous, vous allez voir ce qui va se passer. Les autres, comme moi, vous connaissez. À partir de 25 ans, le corps humain commence à décliner. Alors au début, ça ne se voit pas, puis après, un jour, ça s'accélère. Vous commencez à avoir des cheveux blancs, pour ceux qui ont des cheveux. Moi, ça fait longtemps que... Voilà. Vous commencez à prendre du poids. Vous commencez à moins bien voir avec les yeux. Les dents, enfin, il y a un peu tout, quoi. Les articulations, voilà. C'est quoi ça ? C'est une manifestation de la mort. On en rit, mais c'est vrai, mais c'est ça. Hein, c'est une manifestation de la mort. C'est la manifestation du fait que nos corps sont prévus pour mourir. Et donc à partir de 25 ans, je crois que c'est les cellules qui ne se renouvellent plus ou plus assez vite. Et en fait, on commence à régresser. Voilà. Dieu nous a fait hommes. Et puis le péché est entré dans nos vies après la chute. Et désormais, nous sommes mortels. Mais un jour, nous allons être revêtus d'immortalité. Et ça, c'est le retour de Jésus. Amen. Et quand Jésus va revenir, il va nous enlever dans un corps glorieux. Un corps glorieux. C'est un corps glorieux qui nous attend. Un corps comme lui avait après sa résurrection. Et là, nous allons être enlevés dans ce corps glorieux. Et nous allons partir dans l'éternité avec lui. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il nous a préparé une place. C'est ce que dit la parole. Est-ce que vous croyez qu'on aura des maisons dans le ciel ? Croyez qu'on aura des maisons dans le ciel, comme on a aujourd'hui, là, des maisons avec des murs. Amen. Ma sœur, elle a tout compris. Moi, je crois, c'est une conviction aussi. Je sais, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Moi, je crois que c'était comme une parabole. Il a dit ça comme une image, une parabole. Il va nous enlever dans des corps glorieux et nous allons nous retrouver là-haut avec lui. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que quand la nouvelle Jérusalem paraîtra, il n'y aura pas de temple. Il n'y aura pas de temple. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu suffira. La présence de Dieu va nous environner. Elle sera partout. La gloire de Dieu sera partout. Et ça suffira. Il n'y aura plus besoin de temple. Et l'Apocalypse décrit aussi beaucoup de fois tout le peuple de Dieu et les anges tout autour de son trône. Des milliers et des milliers de corps, de personnes qui sont là pour aimer, glorifier Dieu. Et il est dit que c'est une foule innombrable, une foule qu'on ne peut compter. Moi, je crois qu'on sera dans des corps glorieux. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je crois que quand nous serons là-haut, nous serons dans des corps glorieux et qu'on louera Dieu pour l'éternité. Je crois que ça sera ça. Amen. Je crois que notre corps sera la maison de notre esprit. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Jésus reviendra comme un voleur. Il faut être prêt tout le temps. Soyez tout le temps prêt. Il ne préviendra pas. Il peut revenir avant la fin de ce message. Soyez toujours prêt. Comme si vous partiez en voyage avec des valises déjà prêtes parce que vous ne savez pas à quelle heure l'avion va décoller. On va vous le dire. Quelqu'un va venir vous dire dans quelques temps, ça y est, l'avion décolle, mais il faut que tes valises soient prêtes parce que tu n'auras pas le temps de rentrer chez toi les chercher. Il viendra comme un voleur. Nous tous, on a peur des voleurs. Quand on va se coucher le soir, on ferme les portes, toutes les fenêtres, on ferme tout, tous les soirs. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si un voleur va venir. Donc dans le doute, on ferme tout. On ne laisse pas ouvert. C'est pareil avec Jésus. Il va revenir. Soyons toujours prêts. L'épître de Paul aux Thessaloniciens nous parle beaucoup de l'enlèvement et nous donne des précisions importantes. On va lire un passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ceux qui sont morts, Paul les appelle ceux qui dorment. Et il ne veut pas que nous soyons affligés à cause de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils dorment. Est-ce que vous croyez que ceux qui sont morts, ils pleurent, qu'ils sont tristes, qu'ils sont dans le deuil? Non. Après la mort, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de malheur, il n'y a plus tout ça. Ils sont bien là où ils sont, et je suis sûr qu'ils ne veulent pas revenir. Et donc Paul nous dit, ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est qui les autres qui n'ont pas d'espérance? C'est les païens, ceux qui ne croient pas. Ne soyons pas comme eux, ne soyons pas tristes comme eux. Soyons contents pour ceux qui sont morts en Christ, ceux que nous connaissons et qui sont morts en Christ. Ils dorment, ils attendent le retour de Jésus aussi. Et ils vont être enlevés avec nous. Ne soyons pas tristes pour eux. Sois triste si quelqu'un que tu connais est mort sans Jésus. Oui, sois triste. Et prie pour que toutes les personnes de ta famille ou toutes les personnes que tu connais ne partent pas sans avoir entendu parler de Jésus. Et par ta bouche. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Si Jésus est ressuscité, nous sommes nous aussi appelés à être ressuscités. Quand tu parles de la résurrection de Jésus, tu parles de ta propre résurrection. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Au temps de Paul, dans l'église de Paul, on se consolait avec ces paroles. Est-ce qu'on se console, nous, avec ces paroles? Est-ce que dans les églises, en 2025, on se console avec ça? Moi, j'ai l'impression qu'on se console plutôt avec des promesses, avec des bénédictions. Ça nous console, ça fait du bien à nos cœurs. Mais est-ce que parler du retour de Jésus et de l'enlèvement, ça nous console? Ça devrait. À cette époque-là, on prêchait, on disait, mes frères, mes sœurs, Jésus revient bientôt, consolez-vous, soyez heureux, Jésus revient, tu vis dans le malheur, mais sache que Jésus revient, amen, alléluia, et tout le monde louait, tout le monde adorait. Voilà quel était le message à cette époque-là. Eux, ils étaient convaincus à cette époque-là qu'ils verraient le retour de Jésus. Ils avaient connu Jésus, ils avaient vu Jésus cher, et ils étaient convaincus que Jésus allait revenir. Ils vivaient comme ça. Aujourd'hui, quand on parle de ces choses, de l'enlèvement, il y a une partie des personnes qui n'y croient pas. C'est comme ça. Il y a une autre partie de personnes qui s'en moquent, que ça fait rire. Il y a une autre partie de personnes qui se disent « mais ça ne me concerne pas, parce que moi, d'ici qu'ils reviennent, je ne sais pas où je serai. » Et c'est vrai ce que je vous dis. Et heureusement, il y a des personnes qui y croient. Je dis heureusement parce que c'est la véritable espérance, elle est là. Si vous ne croyez pas au retour de Jésus, vous n'avez pas vraiment d'espérance dans votre cœur. Oui, c'est vrai, alors si vous ne croyez que juste qu'il est mort, qu'il s'est fait chair, il est venu, il a grandi, il est venu sur terre, il est mort à la croix, mais après l'espérance, elle est où? Moi, mon espérance, c'est que mes yeux le verront. Mon espérance, c'est qu'il va revenir et que je vais partir avec lui et que je vais être avec lui pour l'éternité, qu'ensuite je reviendrai avec lui régner sur terre. Voilà l'espérance. Sinon, à quoi bon? Je crois qu'un chrétien qui a compris l'enlèvement et qui vit avec cette consolation de l'enlèvement, c'est un chrétien qui a compris en fait ce qu'est Noël. Noël, ce n'est pas juste Jésus est venu sur la terre, c'est Jésus est venu et Jésus va revenir. Il y a une promesse, il y a une consolation, c'est le retour de Jésus, c'est mon cadeau, j'ai reçu mon cadeau, c'est Christ qui est mort à la croix, et j'ai encore un autre cadeau, c'est Christ qui revient bientôt. Amen. La troisième venue, c'est la venue du roi. Celui qui vient pour régner. Il est venu en tant qu'agneau, il a vécu dans l'humilité. Il reviendra comme un voleur pour nous enlever. Et puis, il viendra en tant que roi. Et quand il viendra en tant que roi, il viendra dans sa gloire et il viendra pour régner. Et quand il viendra, vous savez que quand il va venir comme un voleur, on ne le verra pas. Tout va se passer très vite. Mais quand il va revenir comme un roi, tout œil le verra. C'est ce que dit la parole. Là, quand il reviendra comme un roi, tout le monde le verra. Toute la terre le verra. Tous les peuples le verront. Le retour du roi, on connaît à peu près le moment de son retour. L'enlèvement, on ne sait pas. Mais c'est avant la tribulation. Et on sait que le retour du roi, c'est 7 ans après le début de la tribulation. 2 fois 3 ans et demi. Et là, il revient comme un roi. La tribulation va durer 7 ans. L'Église sera épargnée de la tribulation. Au bout de 7 ans, Jésus reviendra. Et à ce moment-là, nous serons prêts. Nous reviendrons régner avec lui. Et ce sera le début du millénium. Et à ce moment-là, je disais qu'il vient et que tout œil le verra. C'est une venue publique. Tout œil le verra. Il se manifestera dans sa gloire. Il sera vu comme le roi par la terre entière. Et les chrétiens, tous les chrétiens qui auront été enlevés, qui reviendront avec lui, régneront sur le monde avec lui. Amen. La promesse de l'Église, c'est l'enlèvement. Mais le retour de Jésus comme un roi, le millénium, c'est la promesse d'Israël. Vous savez qu'il y a une promesse pour les fils d'Abraham. La terre leur a été promise. Nous, c'est le ciel. Mais les fils d'Abraham ont eu une promesse. C'est la terre. Et Jésus reviendra pour eux, pour accomplir la promesse qui a été faite à Abraham. Et nous, à ce moment-là, nous reviendrons sur la terre avec lui, dans nos corps glorieux. Et nous viendrons régner avec lui pour 1000 ans. Amen. On sera sur terre dans des corps glorieux, immortels, au milieu des hommes mortels sur terre. Vous le croyez ou pas? Amen. Et ça pourrait faire vraiment un scénario de film. Vraiment, quand j'imagine ça, revenir avec Jésus sur la terre, dans un corps immortel, au milieu des mortels, régner sur la terre. Vous serez peut-être intendant d'un pays, d'une nation, vous serez peut-être... Jésus vous demandera peut-être de gouverner un royaume, je ne sais pas. Ça va être vraiment glorieux. Je vais demander à notre pianiste, Sarah, si tu veux bien revenir. Et nous allons terminer avec quelques passages bibliques qui nous parlent de ce retour du roi. Tout d'abord dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 15 à 31. Matthieu 24, versets 15 à 31. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ici, il est question de l'Antéchrist qui va rentrer dans le temple et qui va se déclarer Dieu lui-même. Ce chapitre de Matthieu 24 parle à la fois du retour de l'époux, celui qui vient enlever l'Église, mais également, comme ici, du retour du roi. Là, c'est le retour du roi. On parle de la troisième venue de Jésus, le retour du roi. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Là, ce sont des versets qui parlent de la tribulation et de ceux qui auront raté l'enlèvement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, c'est la tribulation. Et si ces jours n'étaient abrégés, Jésus dit ça parce que ces jours seront abrégés. Au bout de 7 ans, les jours seront abrégés. Il reviendra. Personne ne serait sauvé. Il va abréger les jours, parce que s'il n'abrégeait pas les jours, personne ne serait sauvé. Personne ne serait capable de résister à la marque de la bête. Alors il va abréger les jours. Et au bout de 7 ans, il va revenir. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, malgré que certains aient raté l'enlèvement, on voit qu'il y a encore des élus. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est la venue de Jésus en tant que roi, c'est le début de son règne, c'est l'avènement, c'est le début du règne. Et c'est une venue que tout le monde verra, comme un signe dans le ciel, car il ne viendra pas cette fois-ci comme un voleur, mais il viendra comme un roi pour régner. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront. Tout le monde verra le roi. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il y aura une trompette pour l'enlèvement et il y aura une trompette pour le retour du roi. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ils seront rassemblés par le roi pour entrer avec lui dans le millénium. Amen. Et puis deux textes dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Romains et les Juifs, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Et enfin, Apocalypse 19, versets 11 et 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà qui est Jésus, l'époux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui l'agneau immolé, l'agneau sacrifié pour nos péchés. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu, acclamons le nom de Jésus, acclamons l'agneau, acclamons l'époux, acclamons le roi, acclamons celui qui revient bientôt nous chercher. Alléluia. Je vais appeler le groupe de louanges qui va nous rejoindre. Pour terminer avec un chant qui dit que ce nom est si merveilleux, et c'est vrai que ce nom est si merveilleux. Alors si en entendant ce message, l'Esprit a parlé à ton cœur, et que ce matin tu veux t'approcher de Dieu, peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le moment pour le faire, ce matin tu peux le faire. Peut-être que tu t'es refroidi, que tu t'es éloigné de Dieu. C'est le bon moment aussi pour revenir à lui, pour lui demander pardon, pour t'approcher de lui. Peut-être aussi tout simplement tu es un adorateur de Dieu, un esprit en vérité. Et ce matin encore, c'est le bon moment pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre grâce, pour lui dire merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci encore pour tout ce qui reste à faire, parce que j'ai foi en toi et je crois que tu vas revenir. Alors approchez-vous. Nous allons prier pour vous. Je vais appeler notre pasteur, je vais appeler Jean Calvin, et puis on va prier pour vous. Approchez-vous de Dieu, faites un pas vers Dieu, faites un pas de foi vers Dieu. Il est venu pour vous, il est mort pour vous, pour votre salut, et il reviendra encore vous enlever parce qu'il vous aime. Il ne vous laissera pas ici-bas, il ne nous laissera pas connaître la tribulation, il ne nous laissera pas dans la souffrance. Il viendra nous chercher pour que nous soyons avec lui dans la joie et dans ses noces. Amen.